Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La romancière Carole Fives est la cinquième des finalistes du Grand Prix RTL Lire 2017. Elle est en lice avec son livre Une femme au téléphone. Bernard Lehu nous le présente dans un instant. Au menu du journal musical de Stephen Bellery, les confidences de Nicoletta qui fête cette année ses 50 ans de carrière et James Blunt qui est de retour. Nous découvrirons le premier extrait de son prochain album. À la télévision ce soir, une apparition sur M6, celle de Michelle Obama dans un des épisodes de NCIS. Isabelle Morini-Bosque l'a bien entendu vu pour nous. Et puis Groenland, Vertigo et la bande dessinée RTL du mois de janvier, truffée de clins d'œil à Tintin, c'est un des plus beaux hommages à Hergé, nous dira Monique Younes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Cher Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
On donne la parole ce matin au dernier des 5 finalistes du Grand Prix RTL Lire.
C'est une dernière.
C'est une dernière. Elle s'appelle Carole Fives, de son nom, publie au Une femme au téléphone. C'est le titre du livre chez l'Arbalète Gallimard.
Oui, alors un petit livre de 90 pages, mais alors bourré d'énergie, presque de rage. La rage d'une mère, Charlène, la soixantaine, qui harcèle au téléphone une fille qui ne lui répond pas. Elle lui laisse des messages en rafale. Sur le répondeur, un monologue étonnant, les fragments d'un discours maternel qui sonneront sans doute juste à l'oreille de nombreuses lectrices. Et pour cause, Carole Fives n'est pas allée chercher loin son modèle.
Alors, il est né des souvenirs, des bribes de conversation que j'ai eues avec ma mère sur plusieurs années. Ce livre est venu de là, et c'est des choses que j'avais en mémoire, mais c'est librement recomposé ensuite, oui. Et mis en forme sous forme d'appel téléphonique, sous forme de message. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler du harcèlement téléphonique, du lien, de la dépendance, de la façon dont les relations parents-enfants évoluent avec le temps. Et est-ce qu'on reste l'enfant de ses parents? Est-ce que les parents nous parlent encore de la même façon que quand on avait 10 ans ou 5 ans? Ou est-ce que ça change? Est-ce que parfois aussi, on voit parfois le rapport entre Charlène et sa fille évolue et elle lui parle comme si au contraire la fille devenait la mère? Enfin, c'est tous les rapports de génération qui m'ont toujours intéressée et de voir comment ça change, comment ça évolue, voilà.
Et alors là, quel personnage, hein. Attention, cette mère, cette Charlène, insupportable, toxique, égoïste. Mais à sa décharge, et à l'image d'une génération, il faut dire qu'elle est seule, divorcée, après une vie sacrifiée à sa famille, loin de sa fille, partie vivre ailleurs. Elle survit avec une petite retraite et soigne son cancer. Alors Charlène est non seulement pendue au téléphone, mais elle fume comme un pompier, elle picole un peu, Elle se bourre d'antidépresseurs, Et elle surfe sur les sites de rencontre.
C'est un monstre, je sais pas, il y a Duras qui dit que toutes les mères sont folles, et effectivement, c'est une mère très envahissante, elle harcèle au téléphone, et elle trouve toujours un moyen de se faire rappeler, ou un moyen de se plaindre, et puis après elle devient amusante, enfin elle maîtrise vraiment toute la gamme du chantage affectif, mais justement, ce qui m'intéressait de montrer, c'est pourquoi on écoute Charlène malgré tout, qu'est-ce qui fait qu'on raccroche pas, et ce qui fait que le lecteur aussi reste accroché. J'ai vraiment l'impression d'essayer de comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur, ce langage, cette emprise maternelle, quand on est devenu adulte. Et comment on a quand même du mal à s'en dégager malgré l'âge et comment ce discours toxique effectivement continue à avoir de l'influence sur son entourage.
Et alors la double prouesse de Carole Fives, c'est d'abord cette capacité à nous faire entendre cette parole maternelle, mais aussi à rendre cette mère envahissante aussi drôle que pathétique, aussi attachante qu'horripilante, à nous donner l'envie de raccrocher et puis finalement de l'écouter jusqu'au bout.
Alors grande question évidemment, que pense Madame Fives, mère du livre qu'à son insu, elle a inspiré à sa fille?
Eh bien, elle l'a lu, en tout cas, et apparemment, ça ne s'est pas trop mal passé.
Ah bon?
Elle a beaucoup ri. Elle est très heureuse qu'on parle d'elle. Je me suis vraiment servie de choses que j'avais entendues, choses gravées dans ma mémoire, pour quand même recomposer ces appels téléphoniques. Donc ma mère ne s'y reconnaît pas non plus totalement.
Enfin, c'était une grosse consommatrice de téléphone, elle aussi.
De téléphone et de sites de rencontres. Ça, c'est vrai que ce sont des... Et de cigarettes, enfin, elle vient de s'arrêter de fumer. Mais... Et de toutes les substances antidépresseurs et tout dont je parle dans le livre. Mais ça, c'est vrai que c'est des bases qui sont réelles, mais voilà.
Et sur les sites de rencontres, ça marche pour elle?
Tout à fait.
Je me demande si je ne vais pas aller prendre le thé avec Madame Fives-Mère. Alors, en vous écoutant depuis tout à l'heure...
Parce que je crois qu'elle est auditrice de RTL.
Ah, c'est vrai. Bah, très bien, alors je la salue. Je me disais quand même que ce monologue d'une mère, ça ferait certainement une excellente adaptation théâtrale, non?
Bien sûr, Carole Fives y pense aussi, figurez-vous.
Eh bien oui, tout à fait. C'est en travail là avec Gallimard. On pense à des actrices et on est en train de voir différentes choses pour mettre ça au théâtre effectivement.
Et alors des noms? Vous avez des noms déjà? Enfin, ou vous, quelle est l'actrice dont vous rêvez pour interpréter le rôle de cette Charlène?
Non, j'ai pas de nom en particulier pour le moment. Ça reste ouvert. Plus qu'un nom, je pense que ça sera des gens qui, pas forcément des clichés justement de la Charlène de 60 ans. Pour moi, ça reste très ouvert.
Alors, en attendant la scène et cette adaptation théâtrale, eh bien, Une femme au téléphone, le livre, le roman, est donc à lire dans la collection L'Arbalète chez Gallimard et figure parmi les 5 finalistes du Grand Prix RTL Lire. L'entretien complet de Carole Fives est à retrouver sur RTL.fr.
Et nous saluons toute cette petite famille Fives avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous voulez me dire?
Et puis donc, le lauréat de ce Grand Prix RTL Lire, on connaîtra
le 20 mars. C'est le jour du printemps.
Exactement. Ben voilà. Et ici même, nous serons en compagnie de l'heureux ou l'heureuse élu qui sera l'invité de Laissez-vous tenter.
Comme chaque année, dans quelques instants, journal musical avec Steven Bellery et la voix toujours extraordinaire de Nicoletta.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Ah ben alors, on va passer à nos audiences médiamétrie avec vous, Isabelle Morini-Bosque, en l'occurrence, notre soirée télévisée.
Ah ben imaginez-vous que ce sont les experts du hand qui ont gagné.
Bien sûr.
Près de 6 900 000 téléspectateurs, près de 7 millions. J'avais dit 9 millions, mais c'était pour la méthode Coué. C'est parce que je souhaitais tellement qu'ils aillent jusque-là, mais ils les dépasseront pour la finale dimanche sur TF1. Donc, largement en tête avec 28% du public sur la une. En deuxième position, Limitless sur M6. Mais évidemment, là, il y a beaucoup de chutes. Hein. 2 200 000 téléspectateurs et moins de 9% du public sur M6. Et en troisième position, Envoyé spécial. Et côté TNT, eh ben, c'est la série Cold Case Inusable qui est en tête sur France 4. 1 050 000 téléspectateurs.
Allez, on vous retrouve dans un instant. On va balayer l'actualité musicale de la semaine à présent. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
On débute avec Nicoletta, la chanteuse repart en tournée.
Oui, Nicoletta fête cette année ses 50 ans de carrière. Elle a connu le succès en 1967 avec ça. Cette marque aussi les 25 ans de sa tournée gospel. Deux raisons pour bavarder avec l'artiste de 72 ans, assez discrète depuis la sortie de son dernier album en 2013. Nicoletta aime le gospel depuis toujours ou presque. Je lui ai demandé en préambule si elle se souvenait de sa première rencontre avec ce genre musical.
C'est à Genève. Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré deux jeunes musiciens blancs qui étaient universitaires et qui jouaient du negro spiritual. Et ils me jouaient Still Away to Jesus, Nobody Knows. Et j'adorais. Et surtout, j'avais découvert sur un 45 une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Maya Jackson, puis Elvis. L'amour de ma vie, Elvis, quand j'avais 15-16 ans, c'était mon idole. Et Elvis a fait un disque de gospel en 62, je crois, que j'adore. Elvis chantant le gospel avec une chorale, c'est fabuleux. Et j'ai commencé à apprendre grâce à son disque, à digérer certains gospels. Mais après, il a fallu que je travaille, parce que c'est pas ma science innée. Et quand on s'approprie une culture qui n'est pas la sienne, il faut faire attention.
Et c'est en 1971 que Nicoletta enregistre sa première chanson gospel qui deviendra l'un de ses plus grands succès, Mamie Blue, jeunesse d'un tube.
Hubert Giraud, feu Hubert, qui est parti à 95 ans l'année dernière, qu'il m'a dit, j'étais inspiré. Au volant de ma voiture, j'ai entendu « oh mamie blue, oh mamie, oh mamie ». Il n'y avait pas d'histoire. Ma maison disque connaissait mon histoire avec ma mère. J'ai appris la mort de ma mère par un télégramme. Donc, fort de ça, on croit que je parle de ma grand-mère, mais pas du tout. Je parle de ma mère. Ça a été très dur d'enregistrer. Bah alors, le pire qui me plaisait pas dans cette chanson, c'était le chat et les chiens sont très vieux. Et ils viennent me dire adieu. J'étais morte de rire. Je me suis dit, ça va pas, c'est une connerie cette phrase. Je ne changerai pas mes métaphores. Qui disait Delannou, il avait fait le texte. Bon, ben ça va, on va pas insister, on va la faire. Alors, monsieur Bissier, qui était charmant, mon producteur, que j'adorais, il dit, bon, la chanteuse, elle est pas en forme, elle est bloquée, là. Allez me chercher le meilleur des Bordeaux. J'ai dit, moi, c'est Château-Latour. Alors, on a fait Mamie Blue au Château-Latour.
Quel personnage cette Nicoletta. Alors, c'est 3 ans plus tard qu'on souffle en fait à Nicoletta l'idée de la tournée Godspell, Steven.
Oui, c'est en décembre 1974. Eh bien, figurez-vous, c'est grâce à RTL.
J'ai fait une messe de minuit sur RTL. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les routiers, ils sont sympas.
Au son de cette petite cloche, qu'André, un routier sympa, nous a rapporté de Villedieu.
Ils m'ont demandé de venir faire cette réunion aux entrepôts de Casbersan. Il y avait 20 000 personnes qui sont venues. C'était extraordinaire. J'ai vu le curé qui est venu à la maison. On a partagé les temps de la messe et on a chanté Gloria et Alléluia. Et ma grand-mère, elle était sur le pape d'un côté à la télé, sur RTL. Elle pleurait, elle me dit, c'est tellement beau, mon petit, quand tu chantes du gospel. Tu devrais faire que ça.
Je voudrais bien sûr remercier en tout premier lieu Nicoletta.
Et donc, cette chère grand-mère, je l'ai toujours écoutée, elle était mon maître à penser. Un matin, je me réveille, je me dis, je trouve pas de bonne chanson. Oh, je vais faire du gospel. J'appuie une copine américaine, une choriste. Tu connais pas un chef de chœur, une chef de chœur, quelqu'un qui peut me faire des ateliers gospel. J'ai trouvé, j'ai fait 6 heures par jour d'atelier, je vous jure, c'était fatigant. Et ça a marché.
Et ça marche encore aujourd'hui. C'est juste après le décès de sa grand-mère en 1992 que Nicoletta a lancé ce tour de chant singulier. Elle le fera revivre le 2 février à Arras, le 3 février à Boulogne-sur-Mer, le 4 février à Lille. Merci au passage à Chantal Gramin des Archives RTL qui nous a retrouvé cette petite messe de Noël.
C'était extrêmement émouvant. Merci beaucoup, Steven. Alors, on termine avec la nouveauté du jour. Elle est signée James Blunt. Hein.
4 ans après Moon Landing, qui avait séduit près de 150 000 acheteurs chez nous, le chanteur de You're Beautiful publiera le 24 mars son 5e disque. Il s'appellera The After Love. Le tout premier extrait a été dévoilé cette nuit. La chanson s'intitule Love Me Better. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me better. You love, love, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me better. Love Me Better, c'est le premier single du prochain disque de James Blunt, sorti prévu le 24 mars.
Et ce journal musical, comme d'habitude, était signé Steven Bellamy. Merci James. Alors Monique Younes, bah oui, ça vous plaît. En plein festival d'Angoulême, vous nous annoncez ce matin le lauréat de la bande dessinée RTL de janvier. Il s'agit de l'album Groenland Vertigo d'Hervé Tancrel, édité par Casterman. Et vous m'avez dit, Yves, si vous aimez Tintin, vous allez adorer Groenland Vertigo. Quel rapport ?
Mais Hervé Tancrel a truffé son récit de clin d'œil aux albums de Tintin. Et à vrai dire, c'est un des plus beaux hommages qu'on puisse rendre à Hergé. L'histoire est la suivante. Georges est un auteur de bande dessinée en mal d'inspiration et en manque d'argent.
Comme la plupart des auteurs de bande dessinée.
Oui, comme la plupart des auteurs tout court. Oui. Alors, mais voilà que Georges reçoit une invitation inattendue. On lui propose d'accompagner une équipe d'artistes et de scientifiques au Groenland, dont c'est du plus grand système de fjords au monde. Il s'agit d'installer in situ l'œuvre monumentale d'un artiste contemporain, œuvre censée sensibiliser le monde contre la ruée vers l'or noir dont est victime le Groenland.
Bah, il accepte évidemment.
Mais Georges, vous savez, c'est l'anti-Tintin, une sorte de pied nickelé en chambre. Mais comme c'est tout de même le Groenland, les icebergs, les ours blancs, tout ça, c'est grisant. Allez hop, Georges accepte l'invitation et 8 mois plus tard, il est en Islande. Un voyage qu'a réellement fait l'auteur Hervé Tancrel en 2011.
On est très privilégié quand on se retrouve dans un endroit pareil. Puisqu'on est au nord-est du Groenland, donc dans un parc national, qui est donc un endroit où on peut difficilement aller. Et les paysages là-bas sont gigantesques. Et le fait que l'air soit très pur, d'ailleurs, crée une difficulté à comprendre les distances. On peut croire que quelque chose est très proche, alors qu'en fait, c'est extrêmement loin. Donc ça m'a beaucoup déstabilisé. Puis évidemment, le côté immuable. Je me disais qu'avec cette vieille goélette, qui date peut-être du début du 20e, il y avait des fois où entre le paysage et cette goélette, on pouvait croire qu'on était en 1913 ou au 19e siècle. Quoi.
Mais la vie sur une goélette n'est pas de tout repos. Ah il faut faire des tours de veille sur le pont, ça serait simple s'il ne fallait pas d'abord enfiler cette combinaison de survie. Georges n'y arrive pas plus qu'il ne comprend comment tenir la barre. Et puis surtout, il faut vivre avec cette équipe composée de personnages, disons, haut en couleur pour être gentil, le plus odieux étant évidemment Ulrich Kloster, l'artiste contemporain autour de qui tourne ce projet insolite. L'homme est tellement égocentrique que ça en devient risible.
L'artiste contemporain, lui, c'est vrai qu'il peut faire penser à Laszlo Karedas dans le vol 714 pour Sydney, une personne pas très sympathique. Alors moi, j'en fais quelqu'un qui devient un peu fou, paranoïaque. Et puis avec son assistant, qui pourrait faire penser aussi à Madame Irma, l'assistante de la Castafiore, qui se fait un peu maltraiter. J'ai vraiment tout le temps essayé que mes clins d'œil à Hergé servent mon propos et servent ma narration, mon histoire. On retrouve certaines choses d'Hergé, que ce soit des petites gouttes d'eau pour exprimer la surprise ou des petits tortillons pour la folie ou l'ivresse, quoi. C'est des choses que j'aime beaucoup, quoi.
Monique, on pense évidemment à l'étoile mystérieuse d'Hergé, qui ne manquait pas d'humour, si je me souviens bien.
Il y en a dans ce Groenland Vertigo, par son côté rocambolesque. Alors tout le monde manipule ce pauvre Georges, dont les maladresses portent sans arrêt l'expédition au bord du drame. Mais l'intérêt de cet album, c'est la finesse et la vérité des portraits que brosse Tancrel. Les artistes sont particulièrement soignés. On a parlé de Ulrich Kloster, l'installateur. Oui. Mais il y a aussi l'écrivain voyageur, Jørn Frønken, une sorte de capitaine ad hoc, dont le portable à bois quand sonne l'heure du coup de jaja, et dont le seul but dans cette expédition est de retrouver des bouteilles de whisky centenaires laissées par des explorateurs dans l'Arctique.
Hervé Entre Tancrel, deux bains naturistes.
Oui, voilà. Hervé Tancrel lui fait vivre des aventures très visuelles.
Lui, je crois qu'il les a tellement vécues et qu'il les a tellement écrites, ces histoires, qu'il sait qu'il est à la fin de sa vie. Et du coup... mieux vaut vivre ces choses-là. Et puis ces fameuses bouteilles de whisky qu'il veut retrouver, c'est un peu aussi sa jeunesse qu'il a envie de retrouver, tout simplement. Et puis il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire ça. C'est Georges Benoît-Jean qui est là. Et puis voilà, une amitié naît, mais à la base, il se sert quand même pas mal de lui pour arriver à ses fins, quoi.
Voilà, ainsi va ce Groenland Vertigo. Rien ne se passe comme prévu. Entre les retournements d'iceberg, les rugissements des baleines, les grognements des ours blancs et les whiskies de 150 ans d'âge, le dépaysement proposé par Hervé Tancrel est absolu et le tout nouveau jury du Grand Prix RTL est très heureux que Groenland Vertigo soit la bande dessinée RTL de janvier. J'ai cité les librairies Aladdin à Nantes, Le Furet du Nord à Lille, L'Atelier en face à Paris, ainsi que les sites BD Gestes et séquencesbd.fr. Sachez que si vous voulez vous faire dédicacer Groenland Vertigo par Hervé Tancrel, il sera sur le stand de Casterman à Angoulême cet après-midi et demain samedi toute la journée.
Mais voyez-moi ce week-end, une bonne bûche dans la cheminée, un verre de whisky et un bon Groenland Vertigo. La vie est belle. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Alors, on se projette dans notre soirée, même notre week-end télévisé, mais on commence d'abord par un gros succès.
Oui, on affine. Benoît Hamon plus François Fillon aux 20h de TF1 égale audience très forte. 6 900 000 téléspectateurs contre 4 600 000 pour la 2. C'est quasiment 2 millions de personnes de plus que la moyenne du 20h des jours derniers sur la 1. Et c'est le record saison de la chaîne. Donc, bravo.
On va maintenant évoquer la disparition de Manix.
Ah oui. Ah, j'adore. J'étais très triste d'apprendre la mort de Mike Connors, disparu cette nuit à l'âge de 91 ans en Californie. Je l'avais rencontré en janvier 89 à Orlando. Il m'avait mimé des épisodes du détective privé Mannix. Il m'avait raconté qu'il avait failli être basketteur professionnel. Oui. Il était extrêmement heureux que Mannix, en 8 ans de diffusion seulement, soit devenu une série culte partout dans le monde et toujours rediffusée actuellement partout dans le monde. Et c'est vrai que dans la rue, des gens de tous âges nous accostaient en hurlant « C'est Mannix, c'est Mannix !» Mais vous savez en fait de quoi cet acteur d'origine arménienne se disait le plus fier? Eh ben, d'être un cousin de Charles Aznavour. Donc voilà, je suis très triste.
Oui, en tout cas, c'était vraiment un très beau feuilleton.
Je vais m'acheter tout le coffret.
C'est vrai ? Bon, alors moi, j'ai une pensée pour Peggy que j'aimais beaucoup.
Ah oui, Gail Fischer.
Bon, alors, on en vient quand même maintenant passer l'émotion à notre week-end télévisé. On va signaler d'abord ce soir sur la 3 un documentaire sur la vie amoureuse de Brigitte Bardot.
Oui, la vie amoureuse de bébé. Oui, vous avez raison. La vie amoureuse de bébé, rien que la vie amoureuse de bébé, mais toute sa vie amoureuse, Jacques, Samy, Serge, Jean-Louis, Gunther et les autres, les films. Mais alors, le plus, c'est passionnant, mais le vrai plus, ce sont les films familiaux réalisés par le père de Brigitte Bardot et de Mijanou, sa sœur, de leur naissance à leur adolescence. C'est là, si j'ose dire, que tout prend corps.
Bien
c'est
entendu.
Vraiment bien réussi.
Mais l'événement, c'est l'apparition de Michelle Obama ce soir dans un épisode de NCIS sur M6.
Oui, ce n'était pas la première apparition de Michelle Obama dans une fiction, déjà vue dans 5 ou 6 séries comme Nashville. Ce qui est une première exceptionnelle, c'est qu'elle a autorisé le tournage à l'intérieur de la Maison Blanche, sans exigences autres que celles imposées imposée par la sécurité. Pourquoi a-t-elle accepté? Parce qu'elle a créé en 2011 une association d'aide aux militaires, aux vétérans, à leurs familles, et que NCIS s'y prêtait, qui traite toujours d'enquêtes criminelles au sein de la marine. C'est là que je me la pète en disant que c'est Naval Criminal Investigative Service.
Bravo, bravo mon petit.
Voilà. Alors ce soir, il s'agit d'une famille de militaires menacée par un tueur. Or, quoi de mieux pour médiatiser son action que de participer à une série qui existe depuis 14 ans et 317 épisodes, qui est la préférée des Américains, la plus regardée aux États-Unis depuis 2009 et à plusieurs reprises, la plus suivie dans le monde également. En mai dernier, les Américains ont donc entendu cette voix connue.
Special Agent Gibbs, I've been briefed on everything you've done for Anne's family.
Alors ça se mérite. Hein. Elle apparaît à la 34e minute sur 39 minutes et 50 secondes. C'est pas non plus le dialogue le plus percutant de cette série, pourtant pleine d'humour, mais c'est efficace. Voilà donc Michelle Obama, splendide, face à la femme du G.I.S. et à Gibbs, le magnifique patron de NCIS, là encore plus sobre que son costume.
Je me sens véritablement moins seule.
Maintenant, vous n'êtes plus seule, Anne. L'une des raisons pour lesquelles nous tenons ces assemblées est de rester au contact de nos familles de militaires. Agent spécial Gibbs, on m'a informé de tout ce que vous avez fait pour Anne et pour sa famille. Et d'après ce que j'ai entendu, vous n'avez pas ménagé vos efforts.
C'est mon travail.
Je vous remercierai jamais assez. Anne, c'est nous qui devrions vous remercier, croyez-moi. Nous sommes conscients des sacrifices que font nos familles de militaires et ça n'échappe pas à notre attention. Pas plus que les sacrifices de nos vétérans.
L'honneur de servir, madame.
Voilà. C'est une tradition américaine pour des présidents de participer à des séries. Nancy Reagan en 83 d'Arnold et Willis, oui. C'était son combat contre la drogue. Mmh. Al Gore, vice-président de... J'ai un trou de mémoire. Voilà. De Clinton. Je ne me souviens plus, je vais vérifier.
Clinton, je pars en vrille, ça va pas du tout.
Al Gore en 2007 dans 30 Rock. Mmh. Hillary Clinton en 2016 dans Broad City en pleine campagne. Sans oublier, il n'était pas président, mais un certain Donald Trump en 84 dans, entre autres, Le Prince de Bel-Air. Il en a fait au moins 7 ou 8. Voici, voilà, maintenant, donc c'est NCIS et Michelle Obama. Ça a fait des vagues pour le bon motif, normal pour la marine.
Et demain, vous avez adoré la soirée que Arte consacre aux animaux de la banquise.
Ah oui, c'est magnifique.
Fait un point de contact avec Brigitte Bardot.
Absolument. Ces animaux guerriers qui survivent par moins de 40 degrés et par des vents de plus de 200 km/h. On suit des scientifiques coincés comme les animaux entre banquise et calotte glaciaire. On est fasciné et par les manchots empereurs qui sont tellement bouleversants quand ils marchent, et par les oiseaux qui, sans aucun repère visuel, il n'y a ni fleuve, ni autoroute, ni maison, eh bien, reviennent chaque année au même endroit, au centimètre prêt pour nidifier, engageant une course contre la montre pour s'accoupler, procréer, élever leur progéniture en quelques semaines et repartir avant les grands froids qui rendent tout impossible. Mais alors le plus spectaculaire, ce sont peut-être les poissons qui nagent entre deux eaux et devraient être, si j'ose dire, des poissons en gelée. Eh bien, écoutez ce savant.
Pendant mon premier voyage en Antarctique, j'ai remarqué qu'une espèce de poisson vivant en eau profonde, je l'ai dans un aquarium à moins 1,9 degré, tandis qu'un autre poisson qu'on avait attrapé juste sous la banquise survivait à cette température. Ça a piqué mon intérêt. Pourquoi une espèce gelée et pas l'autre? J'ai donc étudié les composants du sang et c'est comme ça que j'ai partiellement caractérisé l'antigel de cette espèce, qui est en fait une protéine antigène.
Voilà, il provoque un antigel. C'est génial. Vous verrez, c'est génial comment d'autres poissons ont supprimé le sang pour absorber directement l'oxygène de l'eau. Ah, moi, j'ai adoré cette soirée.
Bon, bah, je prépare mon lit
demain sur Arte.
Je prépare mon lit d'antigel et je regarde tout ça tranquillement ce soir à la télévision.
Demain soir
à la télévision sur Arte.
Oui.
Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Alors là, je suis sur le choc, on est à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, Julien?
Il faut pas abuser.
Mais elles sont où, mes chaussettes?
Deuxième tiroir du bas, comme d'habitude.
Et dimanche, sur des genoux.
Chez ma mère, comme d'habitude.
Pardon, c'est parce que ma femme est salariée d'RTL, c'était pour prouver à tout le monde qu'elle me sert et elle me permet de bien,
gérer mon emploi.
Elle a toujours été là pour vous aider.
Oui, elle est toujours là pour m'aider.
Bah, bien sûr.
Elle a un vrai boulot. Oui, il faut pas abuser, effectivement.
Non, oui.
Ce soir, bah, écoutez, un couple, écoutez-moi bien, monsieur Calvi.
Oui.
Un couple divorcé par erreur par une mairie. Ils s'aiment, ils n'ont rien demandé et on se trompe sur un papier, on les divorce. Ils disent, bon, ben, vous allez rectifier. Mmh. Eh ben, on peut pas rectifier. Donc vous restez divorcé. Ben, ça, c'est pas, faut pas abuser.
Mais ben, ça m'est arrivé, ça.
De divorcer comme ça par erreur?
D'être déclaré divorcé.
Ben, vous auriez dû faire sabler le champagne.
Il en a même pas profité.
Ah bon?
En tout cas, je suis sûr que vous allez nous régler ça. Vous savez, elle a eu un petit flirt avec Mike Connors.
Ah, Manix, j'ai adoré,
et ça a un peu perturbé sa vie de couple.
Magnifique générique. Comment s'appelle-t-il? Lalo Schifrin, non? Le générique.
C'est pas impossible.
Oui, Lalo Schifrin, je crois.
Bien, merci beaucoup en tout cas.
Faites-nous une belle émission.
Je vous en prie, je vais le faire pour vous. Merci mon Yves, bon week-end.
À lundi.
Vous écoutez RTL.